années passées, le souvenir des choses, bien précisément, c'est un effort. Ce que les gens ont dit, c'est presque tourner des mensonges. Faut se méfier. C'est putain le passé. Ça fond dans la rêvasserie. Il prend des petites mélodies en route qu'on lui demandait pas. Il vous revient tout maquillé de pleurs et de repentir en vadrouillant.
Histoire 2.
C'est pas sérieux.
Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est déchirant, bien entendu, de retrouver cette langue, la langue de Louis-Ferdinand Céline, féroce et délicate. Mais qu'est-ce que ça nous fait de voir son roman posthume, Guerre, publié par Gallimard, parader en tête des ventes? Qu'est-ce que ça nous fait, ou plutôt, qu'est-ce que ça dit de nous, de nos hantises, de nos peurs, de nos séquelles? Car c'est cela, Guerre, le roman des séquelles de la guerre. Pas seulement des gueules cassées, mais de la langue disloquée. Nous sommes en 1934, peut-être, et nous nous souvenons comment, 20 ans plus tard, on s'est réveillé dans la douleur et le bruit atroce d'une chambre d'hôpital. « J'ai attrapé la guerre dans ma tête », écrit Ferdinand, le narrateur de guerre. On y plonge comme dans un brasier furieux, dans un laboratoire de la haine. Les femmes, on va le voir, en sont les principales victimes, suivies de peu par les Arabes, les bourgeois et évidemment les Juifs, qui ne sont pas loin. C'est putain le passé. Je suis bien d'accord. Alors on fait comment avec cette évidence embarrassante? Céline, collaborateur notoire, bureaucrate de la haine antisémite, frappé d'indignité nationale en 1950, qui devient aujourd'hui notre grand écrivain national. Ce qu'on fait, mais toujours la même chose, notre métier d'historien. Retour aux archives, examen du manuscrit, analyse des soubresauts de la mémoire, on tente une lecture historienne de guerre avec notre invité Anne Simonin, bientôt rejointe par notre sociétaire du jour, Pascal Horry. Anne Simonin, bonjour.
Bonjour, Patrick Boucheron.
Vous êtes une historienne de l'édition, spécialiste des rapports entre droit et littérature. Vous avez publié notamment une histoire des éditions de Minuit pendant la guerre d'Algérie, et puis une histoire de l'invention du crime d'indignité nationale qui est parue en 2008 chez Grasset, sous le titre « Déshonneur dans la République ». Nous allons parler aujourd'hui en historien, de cet objet singulier, guerre, de Céline. Mais d'abord, si vous me le permettez, une question personnelle, une question à la lectrice qui s'est définie comme célinomane, célinophobe, selon l'expression fameuse. Vous, ça vous fait quoi de lire guerre aujourd'hui?
Ah bah, à la fois un étonnement et une irritation. Étonnement parce que je pense que c'est un texte très important d'un point de vue historique. Et irritation parce que c'est la semaine de la commémoration de la résistance et qu'il n'y a pas un mot sur le silence de la mer quand on voit cavalcader en quelque sorte en tête des ventes le livre de Louis-Ferdinand Céline. Et en même temps, la matérialité de ce livre fait qu'il porte les traces de la Seconde Guerre mondiale et que c'est un texte pour moi qui est balafré. Donc c'est ça qui m'intéresse et qui me renvoie évidemment à la Seconde Guerre mondiale et qui presque m'oblige à une lecture anachronique, décalée, de ce qu'est cet inédit, et encore une fois que je trouve très important d'un point de vue historique, de Louis-Ferdinand Céline.
On peut partir de là justement, puisque je vous présentais à Anne Simonin comme d'abord une historienne d'archives, et si on va aux archives, c'est pas pour conforter ses certitudes, c'est pour les déplacer, au fond pour s'arracher ce déchirement dont vous parlez, de lectrice, vous l'avez déjà ressenti lorsque vous travailliez sur le procès Céline, hein, en 1950.
Oui, parce que effectivement, enfin, j'ai essayé de démontrer, je suis revenu là-dessus, que l'amnistie dont avait bénéficié Louis-Ferdinand Céline en 1951 est un faux en écriture publique. Ce qui est quelque chose de grave, hein, même s'il y a prescription. Ouais. Et donc, Céline a conservé les bénéfices de son amnistie, mais il y a une sorte d'instabilité dans son destin de sujet historique, quand il est convoqué devant les juridictions de l'épuration, d'où il se présentera jamais.
Donc, rappelons, c'est une condamnation par la Cour de justice de la Seine le 21 février 1950.
Voilà, et après, qui devient définitive le 20 avril 1951, et à ce moment-là, il est condamné à un élément que ne rappelle pas beaucoup François Gibault, qui toujours insiste sur le fait qu'il a été condamné à un an de prison, donc ce qui prouvait que les juges considéraient que ce qu'il avait fait pendant la guerre n'était pas très grave.
François Gibault, c'est l'ayant droit et l'éditeur du livre.
Céline est condamnée à la confiscation générale de la moitié de ses biens présents et à venir. C'est très important d'avoir l'intégralité de l'intitulé de la peine et, comme vous l'avez rappelé, à l'indignité nationale.
Mais c'est quand même une condamnation légère par rapport à Brasillac, qui est tué, condamné, et pareil par à Rebatet, qui est aussi condamné à mort.
Oui, mais parce qu'il est condamné à un autre moment. C'est-à-dire qu'à partir du suicide de Pierre Drieu-La Rochelle en mai 1945, on ne va plus condamner à mort les écrivains. Donc il y a un moment donné où là, il bénéficie très directement, Céline, du fait d'avoir été condamné tardivement. Mais moi, je maintiens que le jugement qui le frappe et qui est définitif en 1951 est un jugement extrêmement sévère.
Oui, alors vous l'avez écrit dans un numéro de l'Histoire, en 2018, on y renvoie nos auditrices et nos éditeurs. Céline a-t-il été bien jugé? Mais le plus important, c'est ce que vous venez de dire, Anne Simonin, c'est-à-dire la confiscation des archives. Parce que, est-ce qu'il y a des archives Céline, à proprement parler?
Ah bah, il y a beaucoup d'archives Céline. Le problème étant que, quand on ne fait pas partie du milieu des Céliniens, ce sont des archives auxquelles on n'a absolument pas accès. Mmh. Et sinon, à travers ce qu'on veut bien en publier, et sans jamais, la plupart du temps, pouvoir voir les originaux. D'où le choc qu'a été l'intervention de Jean-Pierre Thibaudat et le fait qu'on voit réapparaître des manuscrits, parce que pour la première fois, un non-célinien, quelqu'un qui appartient pas du tout à cette mouvance, a vu un nombre absolument hallucinant d'archives, de sources primaires de Céline, et qu'il a d'ailleurs transcrites, et donc je crois que ça représente 6000 feuillets. Jamais personne, avant Jean-Pierre Thibaudat, sans faire partie du milieu des Céliniens, dans la mesure où les archives se vendent et se vendent à des prix absolument astronomiques, jamais personne n'avait eu accès à autant d'archives inédites de Céline. Et tout d'un coup, voilà, se produit ce choc-là.
Ce choc-là, alors rappelons aussi que Céline entre dans le domaine public en 2031, et donc pour les ayants droit, c'est aussi une course contre la montre. Donc il va y avoir toute une série de publications de ce qu'on nous présente comme des inédits, mais c'est peut-être pas si simple. Et rappelons aussi que Jean-Pierre Thibaudat, dont vous parlez, eh bien ça a été, je dirais, le dépositaire par accident, après la mort de la veuve de Céline, Lucette Destouches, en 2019, à 107 ans, de ses manuscrits. Lorsqu'on lit les critiques littéraires aujourd'hui, même s'ils sont parfois embarrassés ou gênés par cette publication, il y a deux mots qui reviennent en boucle et qu'on pourrait quand même discuter. Les manuscrits ont été volés, les manuscrits reviennent miraculeusement. Je voudrais quand même qu'on fasse un sort à ces deux mots. Oui. Un vol, un miracle.
Alors, il n'y a pas de vol et il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de vol parce que ces manuscrits, non seulement ils n'ont pas été volés quand Céline a quitté son appartement de la rue Girardon, pour moi, ces manuscrits, ils ont été confisqués.
Donc ça, c'est en juin 1944.
Ça, c'est en juin 1944. Et on saura peut-être si Jean-Pierre Thibaudat, qui restait extrêmement discret sur le circuit d'arrivée de ces manuscrits, s'explique là-dessus. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'en dessous de l'appartement de Céline se réunissait le futur comité parisien de la Libération. Et qu'on peut tout à fait imaginer que c'est quelqu'un de ce comité parisien de la Libération qui est monté dans son appartement et qui a prélevé des manuscrits, mais avec l'idée, et pourquoi c'est important le mot confisqué, c'est parce que l'intentionnalité, c'est un mot du vocabulaire juridique, et l'intentionnalité des personnes, qui sont pour moi des résistants, qui ont prélevé ces manuscrits, n'a jamais été ni de les détruire, ni de les voler, ni de les vendre.
Mais c'est la reprise aussi d'un argument de Céline lorsqu'il était réfugié au Danemark et une plainte pour recel de vol a été déposée par les ayants droit et classée sans suite.
Hein, oui, mais ça a été, Céline a toujours dit, épuré, ça veut dire voler. Roger Nimier, dans l'exposition qu'il y a chez Gallimard actuellement, qui est une exposition très intéressante à voir, il y a une lettre où il insiste aussi sur le vol des manuscrits. Pour moi, ces manuscrits ont été confisqués. Et on doit à la résistance, et dont Jean-Pierre Thibaudat fait partie, puisqu'il est une des pièces du puzzle, de les avoir préservés, de les avoir conservés et de les avoir rendus. Alors, si tout ça, c'est pas une façon de se comporter plus que correctement par rapport à l'œuvre d'un écrivain, en considérant que Céline, peut-être qu'il avait été amnistié, et je maintiens qu'il l'a été frauduleusement, mais surtout qu'il y avait, ce que ne voulait pas la résistance, c'était que ces manuscrits soient publiés du vivant, évidemment de Céline, mais également du vivant de Lucette Destouches, et que ça ne leur rapporte rien. Voilà.
C'est ça.
Et c'est là où il y a une trace, c'est-à-dire que la perspective de la Seconde Guerre mondiale, qui fait qu'on ne pourra lire « guerre » que dans cette perspective-là, parce que, par exemple, il manque 9 pages. Et donc, on aurait pu imaginer que l'éditeur eût tenu compte du fait qu'il manquait 9 pages, qui sont toujours pas réapparues, et qu'on ait commencé le livre par des pages blanches.
Mais ce n'est pas le cas.
Non, ce n'est pas le cas.
Et on a même coupé les premiers,
voilà,
pas tout à fait.
Et
d'ailleurs, ça pose la question de mon autre mot, Céline inédit. Ça paraît tout à fait anodin et c'est arboré sur le bandeau rouge de la blanche. Or, dans sa note sur l'édition, Pascal Fouchet évoque un manuscrit de premier jet. Donc, ce n'est pas un roman inédit. Un inédit, c'est un livre qui est constitué comme tel d'emblée. Et effectivement, il est impossible de savoir ce que Céline aurait fait de ces pages.
Absolument. Et alors, on a une date qui nous est donnée, qui est 1934. Dans la postface, Pascal Fouché dit, mais c'est 1934, mais ça pourrait aussi être la fin de Casse-Pipe, c'est-à-dire 1937, puisque Céline s'interrompt pour écrire, à ce moment-là, pour écrire Bagatelle pour un massacre. Et en quelque sorte, pour moi, c'est pas du tout un inédit, c'est un chaînon manquant, guerre.
Et ça, on va en parler dans la deuxième partie, voilà. Entre le voyage ou de la nuit, et puis...
Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire de publier un premier jet de Céline, qui était quand même quelqu'un, on peut lui dénier plein de choses, pas le fait d'être un formidable travailleur, et le fait qu'il n'a jamais publié volontairement un premier jet.
Donc c'est toujours la thématique... Donc peut-être qu'il se trahit aussi, quelque part, dans cette... C'est-à-dire qu'il n'est pas revenu sur...
Absolument.
On voit très bien, par exemple, que les personnages changent de
nom. Mais surtout, et on en parlera peut-être après, jamais il a été aussi direct.
Oui.
Et là, d'une certaine façon, il n'a pas travaillé son style, et donc il va beaucoup parler, et c'est pour ça que Guerre, c'est vraiment un livre pour historiens, parce qu'on apprend de Céline lui-même des choses qu'on ignorait totalement sur cette période-là de sa vie, donc 1915, l'année 1914-1915.
Dans l'éditorial du dernier numéro de la revue en ligne En attendant Nadeau, Tiphaine Samoyau, à qui j'emprunte d'ailleurs l'expression roman des séquelles, rappelle qu'un inédit, évidemment, c'est pas le cas, et que pourquoi on a cette passion des posthumes, ce qu'on aime en eux, c'est sans doute en partie le pouvoir que l'on a sur eux. Alors la question, c'est de savoir effectivement si ce pouvoir, c'est le pouvoir des historiennes et des historiens sur un texte. C'est énorme, la vie quand même. On se perd partout.
Histoire 2, sur France Inter.
Ce sont les derniers mots de Guerre. C'est énorme, la vie quand même. On se perd partout. Pascal Horry, bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Est-ce que l'historien peut s'y retrouver dans ce texte?
L'historien a l'habitude de ne pas se retrouver dans les textes.
Hein. Oui.
Il entre avec précaution, il sauve les meubles. Bon, c'est quand même un manuscrit intéressant sur un personnage lui-même intéressant. Son statut est complexe, mais en même temps, ça nous est fourni sur un plateau, c'est quand même un premier jet. Bon, en tant que premier jet, je pense que c'est forcément fascinant. Mais ceci posé, ça renvoie à un système qui est celui de l'histoire littéraire, à savoir qu'il y a des écrivains et même des grands écrivains. Les historiens, ils travaillent sur toute forme de manuscrits, y compris de petits écrivains et de pas écrivains du tout.
On écoute Jack White et on en parle après. Toujours en compagnie de l'historienne Anne Simonin, rejointe à ce micro par Pascal Horry, nous tentons une lecture historienne du roman posthume de Céline, Guerre, qui vient de paraître chez Gallimard. Qu'est-ce que ce livre et en quoi son retour tonitruant documente-t-il les séquelles de la guerre? J'en cite un passage. « À présent, je suis entraîné. 20 ans, on apprend. J'ai l'âme plus dure comme un biceps. Je crois plus aux facilités. J'ai appris à faire de la musique, du sommeil, du pardon. Et vous le voyez, de la belle littérature aussi, avec des petits morceaux d'horreur arrachés au bruit qui n'en finira jamais. Nous sommes peut-être en 1934, 20 ans ont passé depuis ce jour du 27 octobre 1914, où le cuirassier Louis-Ferdinand Destouche est blessé au bras droit et à la tête aussi en Belgique. Donc Guerre, c'est Pascal Horry, le roman de l'arrière. Au fond, ça se passe là.
Oui, c'est dans le système de Céline écrivain, c'est le roman de l'arrière. Bon, c'est pas le seul, mais c'est le principal. C'est pour moi une découverte, effectivement. J'avoue que j'ai pas suivi l'épopée de la redécouverte ou de la découverte de ces manuscrits. Ça me paraît un texte qui colle au précédent, quand même. Mmh. Ça, c'est clair. Avec des contradictions de détails. Mais, grosso modo, quand le voyage est sorti, ça a quand même été quelque chose de stupéfiant pour beaucoup de lecteurs, pour beaucoup d'écrivains. Il a été, à ce moment-là, quand même, il faut le rappeler, adopté par une partie qu'on peut situer à gauche, voire à l'extrême gauche de l'opinion publique. Les libertaires, bien sûr, ont dit bah, il est parmi nous. Les pacifistes l'ont dit. Le Parti communiste l'a dit. En 1935, encore Jacques Duclos dit mais Céline va nous rejoindre. Oui. Donc, il faut quand même penser à ça. Et en même temps, on ne se rendait sans doute pas compte qu'il se situait ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il était à l'autre extrême. Il était ailleurs. Et on va sans doute parler de l'antisémitisme, mais la présence de l'antisémitisme ne va pas attendre Bagatelle pour un massacre.
Ça, c'est évident.
Insister là-dessus.
Oui, on va y insister, parce que justement, ce roman des séquelles, qui est celui... Au fond, il n'y a pas que les gueules qui sont cassées, Anne Simonin, il y a aussi la langue. Et d'ailleurs, Céline reconstitue la phrase mutilée d'un artilleur à la langue coupée. Ouais. Le plus terrifiant dans ce roman, c'est qu'on est dans un perpétuel bourdonnement. Question d'être sonné, on ne pouvait pas mieux faire.
Oui, alors... Merci d'avoir remarqué ça, parce que je pense que c'est probablement le morceau le plus important dans Guerre. C'est la reconstitution du dialogue qu'il a avec un artilleur à la langue coupée. Et il n'y arrive pas.
Parce que lui-même n'entend plus.
Parce que lui-même n'entend plus, mais surtout parce que, littérairement, il n'a pas l'arme qui lui permette de retranscrire ce langage parlé. Et il est à la recherche de son style, et la note en bas de page qui marque cette retranscription ratée, Pascal Fouché écrit « Céline s'est appliquée pour bien écrire les deux phrases de l'artilleur à la langue coupée. Quel dommage qu'on ne nous ait pas fourni la page du manuscrit, qui nous permette de voir ce que c'est quand Céline s'applique. » Et Céline n'y arrive pas, et je pense que c'est ça qui fait partie de la rage inextinguible qu'il peut avoir. Pourquoi ? Parce que il sait qu'il est faussement médaillé. Et Guerre est quand même un livre très important là-dessus, parce que on comprend, avec l'histoire de la sacoche au pognon, avec la peur du conseil de guerre, qu'en réalité, il a fait partie de gens qui ont cherché à déserter, qu'il a volé avec ses camarades la caisse du régiment, et qu'il s'attend à être absolument sanctionné. Et
comme Bébert, d'ailleurs.
Comme Bébert Cascade, mais qui,
Bébert
lui...
Cascade, qui est un mutin qui va être
fusillé. Oui, enfin, parce qu'il s'est automutilé. Alors que Céline a fait quelque chose, a participé à une action, qui est, il le dit lui-même, abandon de poste, désertion. Et au moment où il pense qu'il va passer devant le conseil de guerre, se produit, et c'est page 97, l'annonce de sa décoration. Qui est totalement stupéfiante, et où là, il comprend qu'il ne va pas faire salaud, mais il va devoir faire héros. Et qu'il sait très bien que ce n'est pas vrai, mais il va dire, c'était moi, je me dis d'emblée, Ferdinand, il y a erreur. C'est le moment d'en profiter. Je n'ai pas eu, je peux le dire, 2 minutes d'hésitation. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous auto-assignez, quand le monde vous assigne à une position de héros, avec non pas une, mais 2 médailles. Médaille militaire d'abord, croix de guerre ensuite, et que vous ne pouvez pas être ce que vous savez être, c'est-à-dire un homme indigne de ces décorations, et que vous réussissez même pas. Parce que là, il y a une vraie fraternité d'armes à faire que vous puissiez transmettre le langage de la gueule cassée.
Oui, donc là, quand je disais que Céline se trahissait dans ce manuscrit de premier jet, c'est de ça dont on pourrait parler, mais il trahit aussi, c'est là... le laboratoire célinien de la haine, au fond, la forge de toutes ces détestations, alors les bourgeois, les arabes, mais avant tout, c'est la mère de toutes les batailles, hein, les femmes. Les scènes les plus éprouvantes à la lecture sont celles où Ferdinand, blessé, se fait soulager par l'infirmière de Purdue sur la Lys, mademoiselle Lespinasse, qui se nomme tantôt Aline, tantôt Agathe, mais qu'il appelle Poufias, Grognasse, je cite. « Saigne avec ta gueule, que je lui dis, saigne, charogne, je l'injuriais comme ça parce que je savais pas quoi dire, et que ça venait du dedans, et que c'était pas le moment d'avoir du sens. » Ce qui est effectivement, là encore, le cœur de cette langue blessée. Écoutons-le, Céline, c'était en 1960, on l'interviewait à Meudon, mais je vous préviens, c'est assez éprouvant.
La femme est très tracassée parce qu'elle a, évidemment toute espèce de faiblesse que vous connaissez. Elle veut rester jeune, et puis... La ménopause aussi, rien que tout ça. Il y a tout le bazar génital qui est très délicat, qui en fait une martyre, n'est-ce pas? Alors, cette martyre, elle vit quand même, alors elle saigne pas, je dirais. Elle va chercher le médecin, elle se fait opérer, pas opérer, réopérer, contre-opérer. Puis elle accouche entre-temps, elle se déforme. Alors, ça fait beaucoup. Elle veut rester jeune, elle veut conserver sa ligne, enfin, une forme. Elle ne veut rien foutre, elle ne peut rien foutre, elle n'a pas de muscle, c'est un problème immense, n'est-ce pas? La chute des femmes, évidemment, c'est la partie emmerdante.
Dans ses réflexions sur la question antisémite, Delphine Orvillers a bien relevé cette hantise du principe féminin qui se confond avec la haine contre les juifs. Pascal Horry, il est devenu impossible aujourd'hui de cantonner l'antisémitisme de Céline à un à côté de l'œuvre. On voit bien que il est partout.
En tous les cas, il est bien avant Bagatelle. Mmh. Et entre parenthèses, je suis de ceux qui considère qu'il ne faut pas isoler les trois textes en disant il y a trois pamphlets comme ça qui sont le mal ou qui sont le bien d'ailleurs pour des antisémites, pourquoi pas. Non, c'est dans
Les trois pamphlets, ce sont
Bagatelle pour un massacre,
1937,
l'école des cadavres,
38,
et les beaux draps,
1941.
Donc, c'est pas tout à fait le même statut, ça c'est clair. Quand on les lit à la suite, on se rend bien compte que Bagatelle est dans la grande continuité des textes précédents. Les autres ont eu une caractéristique d'essai, par exemple. D'essai assez d'ailleurs impressionnant, parce qu'on en arrive à...
Il y a des notes dans les beaux draps.
On sait, grâce à Régis Tétamanzi, qui est un des éditeurs de ces textes-là et des futurs, que il était fourni abondamment, à partir de 1937-38, par la propagande nazie. Hein. Et donc, une partie de ces textes s'envole d'école, même, avec des choses incroyables, telles que des recettes de médecine, presque de pharmacie, destinées à expliquer aux Français comment ils pourront se sauver de la décadence. Donc, on sent bien que, sur ce plan-là, on n'est pas au même niveau littéraire que les textes précédents, mais en revanche, on est dans une parfaite continuité. Et puis, surtout, le gros argument, c'est cette pièce de théâtre qui s'appelle L'Église, qui a été jouée à cette époque, avant Bagatelle pour un massacre, mais par ailleurs, il est clair que l'antisémitisme est déjà présent, structurant, avant la supposée bifurcation de Bagatelle.
Et les beaux draps, vous l'avez écrit, Anne Simonin, c'est une sorte de Mein Kampf à la française.
Oui, les beaux draps, pour moi, c'est le plus terrible des pamphlets antisémites. Dans la mesure où, à cause d'une note en bas de page, jamais Céline a mis des notes en bas de page, et là où il propose une définition restrictive du juif, qui, si elle avait été adoptée par Xavier Vallat à l'époque, eût été absolument dévastatrice. Puisqu'il veut que le juif soit juif, toute personne qui a un grand-parent juif, ça sera même pas le cas dans le cadre du second statut des Juifs de juin 41. Donc là, il est, en plus, c'est un antisémitisme d'action, dans la mesure où il fait partie du tout Paris, même s'il a des rapports compliqués avec les Allemands, il est quand même très très présent sur la scène de l'antisémitisme avec les lettres qu'il publie dans les journaux, et là encore, on n'a pas de corpus complet, parce que on a identifié un certain nombre de lettres, Frédéric Vitoux en particulier, mais moi je maintiens que le corpus n'est pas complet.
Oui.
Et qu'il a encore plus écrit que ça.
Sur ce rapport, Pascal Horry, vous avez écrit récemment un essai de la haine du juif, essai historique paru chez Bouquin en 2021, et Bouquin qui reprend aussi certains de vos livres, dont Les collaborateurs, sur le rapport intime entre Céline et l'antisémitisme. Écoutez Jean Guénaud en parler, universitaire et écrivain, auteur de Polar, inspiré justement de cette littérature populaire qui s'autorise parfois du nom de Céline.
Écoutez, en 1960, le Céline qui m'intéressait, c'était l'ouvrier de la plume. Mais le Louis-Ferdinand Céline antisémite était partout à l'intérieur de celui-là. On ne peut pas dire de l'antisémitisme de Céline que ça a été une phase ou un petit moment. Enfin, ça ne constitue pas du tout une sorte de petite tumeur dont on puisse opérer ou l'homme ou l'œuvre. Il était raciste de façon constante, quotidienne, avérée. C'était quelque chose qui a dû pousser en lui avec son milieu familial. D'abord, il appartient à une classe sociale, la petite bourgeoisie, le petit commerce avant 14, qui est très aisément fascinable par toutes sortes de totalitarismes. Et de ce point de vue, l'article le plus intéressant est l'article de Nizan, paru juste après le voyage au bout de la nuit, qui est prémonitoire, qui prévoit pratiquement la trajectoire politique de Céline dès 1932, dès 1933. Bon, ceci dit, les propos antisémites, racistes étaient constants, amusants d'une certaine façon, car c'était un homme pourvu de drôlerie, mais il était extrêmement haineux.
Alors évidemment, ça donnait envie de lire cet article de Paul Nizan, qui est en fait une brève notice parue dans l'Humanité du 9 décembre 1932, où il salue effectivement cet énorme roman, quel voyage, d'une force et d'une ampleur à laquelle ne nous habituent pas les nains si bien frisés de la littérature bourgeoise, mais il reconnaît effectivement une révolte haineuse et écrit « Céline n'est pas parmi nous ». Impossible d'accepter sa profonde anarchie, son mépris, sa répulsion générale qui n'accepte point le prolétariat, cette révolte pure peut le mener n'importe où, parmi nous, contre nous ou nulle part. C'est très exactement ce que vous disiez tout à l'heure, Pascal Horry.
Oui, à ce moment-là, il n'y a plus d'ambiguïté sur l'évolution de Céline, qui va d'ailleurs, c'est peu connu, mais publier son retour d'Urs. Il s'appelle Mea Culpa, une trentaine de pages. Bon, il n'y a pas que Gide. Et par ailleurs, il faut quand même toujours insister sur le fait, alors quelle est la cause, la conséquence, la poule et l'œuf, à la limite, peu importe pour les historiens, le fait est là, c'est un médecin, c'est important, Léon Daudet a aussi une formation médicale, et c'est un médecin à tendance hygiéniste. Donc on imagine bien que tout ça est assez cohérent avec son regard sur les races en général, sur les femmes aussi, et sur les juifs. La médecine hygiéniste peut régir le monde dans un certain sens. Il y avait des médecins à Auschwitz aussi.
C'est pas la première fois que le nom de Céline met à l'épreuve la conception française de la grandeur littéraire. En 2011, après une polémique, le ministre de la Culture d'alors, Frédéric Mitterrand, l'avait retiré de la liste des célébrations nationales qui, à la faveur de cette affaire, devinrent des commémorations nationales. Et 7 ans plus tard, c'est au tour de Charles Maurras, la ministre de la Culture d'alors, Françoise Nyssen, le retire en 2018, toujours pour les mêmes raisons, son antisémitisme. Et au nom du Haut-Commissariat aux commémorations nationales, Pascal Horry, vous aviez, avec Jean-Noël Jeannet d'ailleurs, protesté depuis la distinction entre commémoration et célébration. Mais là, ça serait quoi commémorer Céline? Parce qu'en 2018, il y avait aussi la question de la publication des pamphlets antisémites qui se posaient.
Mais la question était que si, et moi je persiste à le penser aujourd'hui, si on commence à dire on va retirer Maurras, c'est comme si on retirait Trotsky à l'époque stalinienne, bien entendu. Dans la commémoration d'une collectivité, il y a la totalité. Maurras est un très grand intellectuel extrêmement influent à son époque. On va pas prendre une grande gomme pour ne pas le commémorer. C'est pas la même chose de le célébrer, on est bien d'accord.
Anne Simonin.
Oui, moi je pense que effectivement, faut faire avec. Voilà, je suis pas certaine que des logiques de commémoration soient adaptées. Et en plus, il a pas besoin de ça d'une certaine façon, Céline, parce qu'on voit bien comment il est commémoré par le marché et avec l'impact qu'il a. C'est quand même tout à fait étonnant. Il a cette trajectoire où à chaque fois qu'on pense qu'il est mort ou symboliquement ou réellement, il ressurgit. Et donc ça, c'est un rapport à la langue et à la langue nationale qui est quand même très très étonnant. Donc voilà, moi il me semble que l'intérêt de la commémoration, c'est peut-être aussi de mettre des projecteurs là où il y a des zones d'ombre. Il est tellement dans la lumière que bon.
Oui, mais de toute façon, à ce moment-là, posons la question du grand écrivain. Richard Wagner reste un grand compositeur. Par ailleurs, il est l'auteur, à l'époque où il est à l'extrême gauche, il faudrait quand même le rappeler, Richard Wagner, de textes antisémites, 1849-1850, c'est-à-dire au moment où il est le compositeur de l'histoire de la musique qui est le plus engagé. Comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'il écrit contre les Juifs. Quand il se modère d'une certaine façon en devenant monarchiste, il oublie. Donc, on peut retirer Richard Wagner des programmes. Est-ce qu'on va retirer Céline des programmes? Évidemment pas. Il faut assumer ça.
Il ne s'agit pas de le retirer des programmes. Voilà. Il s'agit de remarquer qu'effectivement, il devient une figure quand même national du grand écrivain, alors que c'est un écrivain frappé par l'indignité nationale.
Non, une figure importante, problématique, admirée par une bonne partie des écrivains supposés être en camarilla, c'est-à-dire, ah oui, mais quand même, Céline, quel grand écrivain, peut-être moins par le grand public.
Quand même, il y a...
Oui, mais ça le pose, incontestablement. Mais dans ce cas-là, on va jusqu'où dans l'exclusion? Il faut assumer cette part d'ombre des, entre guillemets, grands artistes.
On parlait pas exactement de ça, Pascal Horry. Ouais. On parlait, au fond, de cette opération éditoriale qui consiste à faire prendre des posthumes pour des inédits et à préparer peut-être ce qui n'était pas possible en 2018, puisque Anne Simonin, vous parliez de cette exposition importante, effectivement, Céline, les manuscrits retrouvés dans la galerie Gallimard, et en marge de son vernissage, Antoine Gallimard a, il y a quelques jours, déclaré « Je n'ai jamais dit que j'y renoncerais, j'ai suspendu le projet ». Le projet, donc, des pamphlets antisémites. Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal Horry?
Mais comme je ne considère pas les pamphlets antisémites comme particulièrement spécifiques, ils vont, je l'ai dit, je le répète, dans une certaine direction. Ils ne sont pas susceptibles pour moi d'être retirés chirurgicalement, ou bien on ne publie jamais Céline en Pléiade, puisque c'est ça l'enjeu, ou bien on les met aussi. Franchement, ça ne peut pas être une demi-mesure.
Anne Simonin, vous êtes l'historienne des éditions de Minuit. Les éditions de Minuit ont été rachetées par Gallimard. Il y a quand même un contexte.
Moi, les pamphlets antisémites, ils sont parfaitement accessibles partout. Moi, je vous les télécharge sur Internet sans aucune difficulté. Et donc, les rééditer, les mettre en livre, ça a un sens. Voilà. Et alors, m'expliquer qu'on va mettre des notes en bas de page, je suis pas du tout persuadée que ce soit quelque chose qui éclaire plus particulièrement cette prose. Donc ce que je comprends pas, c'est cette insistance sur la façon de revisiter la bibliothèque antisémite française. Parce qu'il n'y a pas, à ce moment-là, il faut faire des séries. Il y a quand même un retour de toute cette prose, aussi bien avec Paul Morand, avec Jacques Chardonne. Donc il n'y a pas eu que ça dans la littérature française. Et je suis d'accord avec le fait que, bien entendu, il ne s'agit pas du tout de pas les lire ou de pas faire avec. Mais pour moi, je vois pas l'intérêt de la réédition. Gallimard, c'est une marque. Gallimard, c'est aussi un symbole. Et donc, choisir de rééditer, alors qu'encore une fois, tous les textes sont accessibles, je comprends pas la nécessité.
Oui, tous les textes sont pas complètement accessibles. Du fait de Lucette Almanzor, ou des touches, ils ne l'étaient pas, puisqu'ils n'ont jamais été interdits. Bon. Donc, c'est une question qui est renvoyée à l'éditeur. Est-ce qu'il publie la totalité dans la prestigieuse collection Pléiade? Mais sinon, la publication de ces textes ne pose pas de problème juridique, ou alors on décidera a posteriori de les interdire. Mais je rappelle que Mein Kampf a fait l'objet d'une publication annotée.
Oui. Moi, je rappelle aussi que Céline, quand il signe son contrat chez Gallimard, interdit la republication de ses textes et que c'est une décision de Lucette Destouches et de François Gibault. Et de François Gibault, quand ils ont décidé de republier Mea Culpa. Mais Céline, en 52, ne souhaitait pas la réédition de ses œuvres.
Oui, mais je suis désolé, à partir du moment où ça tombera dans le domaine public, vous vous retrouverez devant le même problème, c'est-à-dire qu'il sera publié. Et à l'heure actuelle, les inédits, c'est la même chose pour Rabatet, etc., sont accessibles, comme le dit Anne, sur Internet, sans commentaires et sans notes en bas de page. C'est comme les protocoles des âges de Sion, vous les avez en accès libre, pas simplement au Moyen-Orient, sans commentaires, sans préface. Donc, avec un état de dangerosité maximale. Si vous préférez ça, bah allons-y.
J'ai
de toute façon, tout est publiable aujourd'hui sur Internet.
J'ai attrapé la guerre.
Alléluia, mais alléluia.
Alléluia, je ne sais pas,
bah
mais
oui.
Enfin, en tout cas.
Non, mais il faut être quand même logique.
De profundis.
Ben oui, mais c'est la même chose.
Nous avions intitulé cette émission « Séquelles », le roman des séquelles, Louis-Ferdinand Céline. Manifestement, on n'en a pas fini avec lui, soit de se laisser enchanté par sa langue, soit de se
laisser empoisonner.
Merci Anne Simonin, merci Pascal Horry. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Jérôme Boulet. À la technique, aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques à la page de notre émission sur le site de France Inter. La semaine prochaine, nous parlerons des grossesses et maternités à la cour au XVIIe et XVIIIe siècle. Ça va être plus calme à l'occasion de la parution du livre de Pascal Mormiche. Bon dimanche sur France Inter.